Paul de Garros, rival de sa fille, chapitre 8. Pendant 3 semaines, l'état de Madame Talleyrac, atteinte d'une congestion pulmonaire, demeura très grave. François, durant cette époque, puisa dans sa tendresse filiale du courage et un dévouement au-dessus de tout éloge. S'oubliant complètement lui-même, insensible à la fatigue, il s'installa près de sa mère, la veilla et la soigna avec une patience et une douceur admirables, jusqu'au jour où sa chère malade, complètement rétablie, put reprendre sa vie normale. Ce jour-là, Madame Talleyrac fit une grande surprise à son fils. « Mon cher enfant, lui dit-elle, j'ai dû te faire beaucoup de chagrin lorsqu'il y a quelques mois j'ai refusé si durement de te laisser épouser la jeune fille que tu aimes. À ce moment-là, j'agissais, je croyais agir pour ton bien, et je me laissais tout bonnement guider par un préjugé absurde. Je me suis trompé, je le regrette de tout mon cœur. Puisque tu vas repartir prochainement pour Paris, je veux que tu emportes la bonne nouvelle. Oh, ma chère mère, protesta le jeune homme, oh, tu n'as pas de reproche à te faire, puisque tu agissais pour mon bien. D'ailleurs, tu es bien mieux placé que moi pour juger de l'opportunité de ce mariage. Non, mon ami, répéta Madame Talleyrac, je me suis trompé, voilà tout. Alors, interrogea François anxieux, alors j'ai décidé de te laisser épouser Hélène Morange. Donc, si ce mariage ne dépend que de moi, tu pourras être heureux bientôt. Oh, merci, ma chère maman, s'écria le jeune homme en se jetant au cou de sa mère. Chapitre 9. Ce matin-là, Bernard d'Orcel, nonchalant et distrait, suivait au pas d'un paisible cheval de manège l'allée des poteaux, lorsqu'au tournant de la route de Saint-Denis, deux Amazones le croisèrent. Il fit une exclamation de surprise en reconnaissant Mademoiselle Pérol et Mademoiselle Morange. « Oh, je suis charmé, mademoiselle, dit-il, de l'heureuse rencontre que le hasard me fait faire. Si j'avais connu plus tôt votre intention d'exécuter cette promenade, j'aurais sollicité l'honneur de vous servir de guide. Oh, nous aurions été flattés, monsieur, dit Mathilde, de nous avoir pour cavaliers au lieu de nous faire chaperonner par un domestique. Qu'à cela ne tienne, mademoiselle, il est encore temps, répondit Bernard, et si vous le permettez... Nous rentrions. Bien, je rentre avec vous. » Et d'Orcel, faisant tourner son cheval, vint se ranger à côté de Mademoiselle Morange, qu'il regarda en souriant. Vous allez vous moquer de moi, n'est-ce pas? Dit Hélène. Je l'avoue sans honte, je ne possède pas les secrets de votre art. Au contraire, mademoiselle, j'admirais votre aisance et votre tenue parfaitement correcte. « Non, franchement, faites-moi des remontrances, donnez-moi des conseils, mais ne m'accablez pas d'éloges. Je ne les croirai pas sincères, et je prendrai vos compliments pour de la raillerie. Et je vous jure, mademoiselle, que mon admiration est très réelle. »« Songez, observa mademoiselle Pérol, qu'Hélène n'a pas 10 leçons de manège. »« Oh, ne m'épluchez pas, vous allez m'intimider, enfin... » Si je suis ridicule, tant pis. Ça m'est égal, après tout. Je m'amuse. C'est tout ce que je veux. Bernard rêvait. Tandis que Mademoiselle Pérol, un peu en avant du groupe, sur son grand cheval bai, rectifiait ses positions, s'efforçait de se donner les manières d'une Amazone impeccable, le jeune homme ne quittait pas des yeux Hélène qui, tout simplement, se laissait aller au mouvement de l'urette, sa petite jument Aljane, sans raideur ni affectation, sans souci de l'opinion des passantes, tout entière à la joie de sa promenade qu'un effort lui eût gâtée. Et il lui semblait qu'elle n'avait jamais été aussi jolie. Se sentant l'objet des regards de Dorcel, Mademoiselle Morange se retourna brusquement vers lui, et leurs yeux s'étant rencontrés, elle rougit. Puis, prenant la chose en plaisantant, « Oh, vous m'observez, dit-elle, pour surprendre et noter toutes mes bévues. » Vous me croyez donc bien méchant. Je vous y autorise, allez. C'est très bien de s'intéresser à son élève, car c'est vous, je ne l'oublie pas, qui m'avez donné ma première leçon en Auvergne. Pour rappelez-vous, nous partis à Anne pour commencer. Oui, murmura-t-il. Quel progrès depuis! La jeune fille, piquée au vif par cette insistance, voulut frapper un grand coup qui consacrerait d'une manière irréfutable sa réputation en équitation. Elle ramena les rênes et jetant un regard de défi à Bernard, elle enleva d'un vigoureux coup de cravache sa jument qui partit au galop. Sans perdre une seconde, Dorcel s'élança à sa suite et poussant sa bête, l'eut bientôt rejointe. « Bravo !» dit-il, « voilà un coup de maître !» Elle ne répondit pas, tout occupée de l'urette que la présence d'un autre cheval galopant à côté d'elle excitait d'une façon inquiétante. De son côté, le cheval de Dorcel, en bon routinier de manège, cherchait à maintenir son niveau. Mais l'urette, aveuglée par l'orgueil, ne voulut pas céder et donna toute sa vitesse. Ce à quoi son rival répartit en partant comme une flèche. L'effet de cette allure vertigineuse ne fut pas long à se produire. Hélène, violemment secouée, prit peur et, se sentant glisser, poussa un cri et lâcha tout. Heureusement, Bernard était toujours à côté d'elle. Il put la soutenir et l'empêcher de tomber, en même temps qu'il attrapait les rênes de la jument et parvenait enfin à maîtriser les deux bêtes emballées. Au même instant, Mathilde et le domestique, portant le chapeau de Mademoiselle Morange, arrivaient sur le théâtre des événements. Hélène, tout à fait rassurée maintenant, s'était remise en selle. « Tu n'as pas de mal, ma chérie ?» demanda Mathilde en s'empressant près de son amie. « Non, 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 j'en suis quitte pour la peur. »« Voilà, » dit-elle en riant, « c'est bien fait. » Ça m'apprendra à être plus modeste à l'avenir. Mais tu es toute pâle, fit Mathilde. Veux-tu que nous interrompions notre promenade? Non, 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 je suis bien. Continuons. Le retour s'effectua lentement au pas, égayé par les saillies d'Hélène qui, malgré une réelle fatigue, essayait de rire de sa mésaventure. À la place de la Concorde, Bernard se sépara des deux jeunes filles. « M'autoriserez-vous, mademoiselle, dit-il en saluant Hélène, à aller prendre ce soir de vos nouvelles ?» Ils étaient très près de l'un de l'autre. Elle le regarda froidement dans les yeux, et parlant tout bas pour n'être entendu que de lui. « Oh, vous pouvez venir, dit-elle, mais je vous avertis que ce n'était pas souffrant le moins du monde, je serais sorti. » Ça ne fait rien, n'est-ce pas? On vous y recevra avec plaisir. Aussi bien, c'est tout ce que vous désirez, car ce n'est pas pour moi que vous vous dérangez. » Bernard fut tellement surpris qu'il ne trouva rien à répliquer. Lorsqu'il recouvrait sa présence d'esprit, les deux jeunes filles étaient loin. Il rentra chez lui bouleversé. Le soir, il hésita à se présenter chez M. Mirval. Puis une raison le décida. Puisqu'il devait trouver Claire toute seule chez elle, il en profiterait pour lui dire son mal au cœur et pour préparer la rupture définitive. Mais une fois devant elle, sa résolution chancela. La jeune femme, devinant sans doute qu'un orage la menaçait, se fit plus câline, plus enveloppante que jamais. « C'est joli, monsieur, dit-elle, de m'avoir fait attendre ainsi. Il est près de 5 heures, vous savez. J'ai cru que vous ne viendriez plus. »« Oh, il s'en est fallu de bien peu, » balbutia-t-il, les dents serrées. « Oh, pourquoi donc ?»« Parce que, je ne sais pas. »« Vous avez des secrets pour moi ?»« Oui, parce que c'est mal, c'est très mal ce que nous faisons. » C'est un exemple déplorable pour votre fille, et cela ne peut nous attirer que des ennuis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, il y a que ce matin, votre fille m'a lancé à la figure une allusion très désagréable. Ma fille, oh, je m'attendais au ton dont elle m'a parlé de vous. Que vous a-t-elle dit, voyons? Oh, elle m'a dit, ou à peu près, que j'étais votre amant. Et j'avoue, j'en ai été si vexé que j'ai décidé de ne plus m'exposer dans l'avenir à recevoir ce reproche. Bernard, oui, je suis venu vous voir aujourd'hui pour la dernière fois. Je vais partir incessamment pour la campagne. Alors, pour une scène insignifiante, pour une bêtise, voilà que vous perdez la tête, oh, mon pauvre ami. Moi, j'en ai subi 50, 100, je ne sais combien des scènes et de terribles pour vous seul. Et je n'ai jamais songé à me plaindre ni à modifier pour cela ma conduite. On vous a déjà reproché nos relations. Votre père, votre fille, vous n'avez rien dit. À quoi bon? Mais c'est un manque de confiance. Claire baissa la tête, puis tout à coup, elle la releva furieuse. Ah, tenez, épousez-la donc, ma fille, puisque vous l'aimez tant, puisque... Elle s'arrêta une minute en voyant Dorcel pâlir. Oui, vous l'aimez, continua-t-elle, cela perce dans vos yeux, dans vos paroles, dans vos actes. Oh, je me souviens, croyez-le bien, du temps où vous la courtisiez. Si vous ne l'aimiez pas, auriez-vous donc été bouleversé à ce point par l'allusion qu'elle vous a lancée ce matin? Mais les moindres traits blessent, n'est-ce pas, de la main que l'on chérit. Oh, je vous le pardonne, c'est si naturel que la grâce de la jeunesse fait impression sur votre cœur. On vous le rend bien, allez, j'en suis sûr. Il y a plusieurs mois que je l'ai vue. Et voulez-vous que je vous fasse un aveu? Eh bien, si Hélène est aussi sévère pour nous, c'est qu'elle a été dépitée de voir vos hommages partagés entre elle et moi, tandis qu'elle les voudrait tous pour elle seule, entendez-vous? Allons, épousez-la. Je ne serais pas jalouse, moi. Sa voix tremblante démentait ses paroles. Mais Bernard était trop troublé lui-même pour le remarquer. Au bout d'un instant, plus maître de lui, il reprit. Vous ne pouvez pourtant pas poser ma candidature à la main de Mademoiselle Hélène, puisqu'elle est promise à un autre. Bon, mon amour est sans conséquence. Il sera pas difficile de séparer ces deux enfants qui savaient à peine ce qu'ils faisaient en changeant des promesses. D'ailleurs, ma fille, j'en suis sûr, n'acceptait Talleyrand que comme pis-aller, car c'est vous seul. Et quand cela serait, interrompit Bernard, il me semble que la liaison qui existe entre nous n'est guère faite pour rendre ce mariage sérieux. Mais il me semble au contraire que c'est un excellent moyen de dénouer la situation. Vous continuez à venir ici, vous faites la cour à Hélène, vous lui montrez que ses soupçons sont injustifiés, que vous ne recherchez qu'elle seule. Elle ne demandera, j'en suis persuadé, qu'à se laisser convaincre. Vous serez heureux l'un par l'autre et moi, je pourrai encore vous voir souvent. C'est tout ce que je désire, ajouta-t-elle avec un mouvement de charmante résignation. Oh, je l'attendais, cette phrase, répondit Bernard. Non, madame, le marché que vous m'offrez est odieux. Je ne l'accepterai pas. Il se leva, décidé à partir pour toujours. Vous êtes injuste, Bernard. De moi, vous faites fi. Je suis trop vieille. J'accepte cet outrage. Je pousse le dévouement jusqu'à me sacrifier à ma fille et à vous la donner comme femme, puisque c'est votre secret désir. Et vous me répondez par une nouvelle injure. Voyons. Non, c'est odieux, répéta-t-il en se dirigeant vers la porte. Jamais sur ce point je ne transigerai. Adieu. Au revoir, mon ami. Chapitre 10. Parmi les personnes qui attendaient leur tour d'audience dans l'antichambre de M. Pérol, un monsieur d'une correction parfaite, vêtu avec la dernière élégance, le monocle à l'œil, se faisait remarquer par son air d'impatience hautaine. Lorsque son tour approcha, il fit passer sa carte. Jérôme sent la ville, représentant de la maison Ackermann et compagnie, route de Montretout, Saint-Cloud. Quelques minutes après, on l'introduisait. Monsieur Pérol, à qui cette carte ne rappelait aucun souvenir, fit de nouveau décliner à l'inconnu son nom, prénom et localité, et le priant de s'asseoir, lui demanda de vouloir bien exposer l'objet de sa visite. « Monsieur, commença le nouveau venu avec la plus belle assurance, la maison Ackermann et compagnie, dont je suis le représentant pour Paris et le nord de la France, le siège social est à Marseille, est la première agence de courtage du monde, non seulement par le nombre, la richesse et l'importance de sa clientèle, mais encore par le chiffre énorme de ses garanties financières qui lui permet de satisfaire dans les meilleures conditions de célérité et de bon marché les personnes qu'il honore de leurs ordres. Nous sommes courtiers de tout, monsieur, en tout pour tout. Depuis les denrées coloniales, les éponges ou les dents d'éléphant, jusqu'aux recherches d'héritiers, réclames, arrangements matrimoniaux, interventions dans les affaires de mœurs trop délicates pour être confiées à la justice, entremises dans les conquêtes amoureuses trop difficiles. Oui, monsieur, nous faisons tout cela et à des prix défiant toute concurrence. Paie-t-on d'avance ? Dit le banquier qui avait envie de s'amuser. Oh, ça dépend. Avec les clients inconnus, oui. Avec les gens comme vous, monsieur, jamais. Le succès est garanti. Oh, je n'en doute pas, monsieur, interrompit aimable Pérol, mais cela ne m'indique pas le but de votre visite. Oh, je croyais, fit le courtier d'un ton qu'il s'efforça de rendre naïf. C'est-à-dire, repartit le banquier, qui ne voulait pas passer pour un niais, que je ne vois pas du tout pour quel objet vous venez m'offrir votre intermédiaire. Moi, je fais mes affaires moi-même. Et elles réussissent toutes au gré de vos désirs, monsieur Pérol. Vous n'avez jamais besoin qu'on vous aide. Vous n'avez aucune ambition qui, pour être satisfaite, nécessiterait... Mais monsieur... Oh, tous mes compliments, alors. Je le reconnais, mes offres sont inutiles. En tout cas, monsieur, n'oubliez pas, courtage universel, comprenant toutes les branches de l'activité humaine, discrétion absolue, loyauté parfaite, route de Montretout à Saint-Cloud. Et Jérôme, sans la ville, se leva comme pour se retirer, et le banquier l'imita, heureux d'être débarrassé à si bon compte. Mais avant d'ouvrir la porte, le représentant de la maison Ackermann et compagnie s'arrêta encore. « Oh, je regrette infiniment, monsieur Pérol, dit-il, de vous avoir dérangé. J'ai bon espoir, toutefois, que ma visite n'aura pas été inutile. Vous pouvez avoir besoin de nous, à un moment donné. Votre confiance ne sera pas trompée, croyez-le bien. Cherchez bien encore. Avant mon départ, si par hasard... » Bon, non, je suis sûr de ne rien trouver, dit Pérol impatienté. Cherchez toujours, poursuivit le courtier sans se déconcerter. Voyons, n'y aurait-il pas de par le monde une jeune femme charmante qui refuserait l'offre de votre amitié? Bon Dieu, ça se voit, ces choses-là. Certains caractères capricieux se rebellent à toutes les séductions, même à celles de l'or. Le banquier, tout penaud, balbutia. « Mais enfin, qui êtes-vous donc, monsieur ?» Et le courtier répéta. « Jérôme Salaville, représentant de la maison Ackermann et compagnie, courtage universel, discrétion, loyauté, pour vous servir, monsieur le baron. » « Ah, monsieur le baron, le rêve de ma fille, » fit Pérol à demi-voix. « Oh, je pense que mademoiselle votre fille, monsieur. Eh bien, nous pourrions voir, baron de Saint-Empire ou contre-main. Les prix ne diffèrent pas sensiblement. Non, 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 c'est inutile de vous occuper de cela. Alors, cette jeune femme qui, au surplus quand je dis qu'une femme peut se trouver de par le monde, qui vous résiste, c'est une manière de parler toute générale. Je n'ai pas la prétention de faire une application particulière. Oui, c'est bien, à bon entendeur, fit en clignant de l'œil le banquier, qui s'échauffait peu à peu. Mais je jure que je ne sais rien. Bien mieux, je le déclare franchement. S'il y avait quelque chose, je le regretterais. J'eusse préféré que monsieur le baron n'eût pas jeté son dévolu, parce que dans ce cas, j'ai en vue une personne absolument délicieuse qui ferait la plus jolie petite omphale pour un Hercule de la bourse. Mais farceur, comment est-elle? Blanche cendrée, admirablement faite, toujours vêtue de moire dans les 35 ans. Je la vois deux fois par semaine à Saint-Cloud. Elle vient avec un jeune homme qui possède un pied-à-terre juste en face de chez moi. En voilà par exemple un beau garçon, lui, le jeune homme. Oh, je crois moins âgé que sa compagne. Oh, si nous pouvions lui souffler sa maîtresse, quel excellent mari pour mademoiselle votre fille. Riche, distingué. Mais ma fille n'est pas en cause pour l'instant, s'écria le banquier. C'est de moi qu'il s'agit. Alors vous pensez? Bon, je ne pense rien. Mais tonnerre, savez-vous que cette Bigoret pose pour la vertu avec moi? Oh, je supposais bien qu'il y a là-dessous quelque intrigue. Le grand point maintenant est de lui faire comprendre qu'on connaît ses relations avec ce jeune homme, de la confondre. Oh, jamais de la vie, ce serait une grosse maladresse. Oh, je croyais, murmura Pérol un peu confus. Alors, comment? Laissez-moi faire, je me charge de tout. Monsieur Sanlaville, déclara aimable avec son gros rire, vous êtes décidément très fort. Inutile de préciser les noms, n'est-ce pas? Nous savons à demi-mot à qui nous avons affaire. Oh, le farceur! Jérôme ne répondit pas. Mais ses larges paupières retombèrent lentement sur ses yeux sournois, comme celles d'un chat-huant gêné d'être mis brusquement en pleine lumière. Au revoir, monsieur le baron, dit-il de sa voix blanche. Et Pérol, ahuri, lui serra la main. Chapitre 11. Depuis sa dernière entrevue avec Dorcel, Madame Morange avait souffert 1000 tourments. Et sa vie se consumait en de perpétuelles angoisses, en d'épuisantes luttes entre son cœur d'amante et ses scrupules de mère. Par surcroît, elle voyait approcher le moment où Madame Talleyrac viendrait lui demander la main d'Hélène pour son fils. Et cette perspective, qui allait la mettre en face d'une alternative inéluctable, achevait de la bouleverser. Prête, ce jour-là vers 2h30, Claire se disposait à sortir lorsque la bonne lui remit une lettre qu'on venait d'apporter. Ne reconnaissant pas l'écriture, elle déchira l'enveloppe avec un mouvement de curiosité inquiète. Quelques mots seulement, d'une bienveillance apparente. Tout se sait, madame. Parmi les gens qui vous entourent, nul n'ignore les détails de votre conduite, à commencer par vos visites rue de Bellechasse, jusqu'au rendez-vous dans la villa de votre amant à Saint-Cloud. Souffrez qu'un ami dévoué vous donne cet avertissement, afin que vous cessiez de compromettre plus longtemps votre situation en même temps que celle de votre fille. Pas de signature. Claire réfléchit, puis recommença sa lecture avec attention. Et soudain, ses sourcils se froncèrent. Ah, le lâche, s'écria-t-elle en frémissant, froissant le papier avec colère. Une ruse inepte! Et j'allais m'y laisser prendre, et j'allais croire qu'une pensée affectueuse a guidé cette démarche, alors qu'une jalousie féroce l'a dictée. La domestique qui entrait interrompit son grelilloque. On demande madame au salon. Qui est-ce? C'est une vieille dame en bonnet noir. Elle m'a dit d'annoncer madame Talleyrac de Pont-l'Allier, Une compatriote de madame, je crois. Madame Morange eut un sursaut de surprise mêlé de terreur. Puis, se maîtrisant, c'est bien, dit-elle, dites que j'y vais. Elle mit de l'ordre dans sa coiffure et, s'étant jeté un dernier coup d'œil dans la glace, elle ouvrit la porte du salon. Les deux femmes se saluèrent froidement avec une appréhension réciproque. Puis Madame Morange, se dominant, tendit la main à Madame Talleyrac, lui avança un fauteuil et s'assit près d'elle. Comme c'est aimable à vous, chère madame, dit-elle, d'être venue me voir, étant à Paris pour peu de jours, sans doute. Je savais que vous deviez faire ce voyage. Monsieur votre fils, à son retour d'Auvergne, m'avait dit que, bien probablement, vous vous décideriez vers la fin du printemps. Mais je n'espérais pas le plaisir de vous recevoir. Vraiment, vous êtes trop bonne d'avoir pensé à moi. Et votre santé, où en est-elle maintenant? Vous avez été sérieusement souffrante cet hiver. Oui, très souffrante, mais j'ai été admirablement soignée par mon pauvre François. Il est bien probable que sans lui. Vous ne seriez pas venue à Paris, ajouta Claire en riant. Vous avez deviné ma pensée, madame. C'est justement pour lui répoigner ma reconnaissance que je me suis décidée. Il s'agissait de son bonheur, pauvre enfant. Il y a assez longtemps qu'il la caresse, ce rêve. Claire eut un mouvement d'inquiétude qu'elle dissimula en arrangeant un pli de sa robe. Au surplus, reprit Madame Talleyrac, vous connaissez aussi bien que moi, madame, le rêve dont je veux parler. C'est-à-dire l'affection de François pour mademoiselle votre fille. Elle-même ne l'ignore pas et s'y est montrée avec votre tacite encouragement assez sensible pour que mon fils puisse espérer. Il manque aux promesses que ces deux enfants se sont faites une dernière sanction, le consentement de leur mère. Donnons-le-leur, si vous le voulez bien. Et que nous puissions conserver de cette journée le souvenir d'avoir fait deux heureux. Madame, je suis profondément touchée de l'honneur que vous me faites, répondit Madame Morange. Et vous me trouvez absolument prise au dépourvu pour répondre à une demande de cette gravité. Je ne suis pas seule. Je ne puis pas, sans consulter mon père, m'engager dans une affaire aussi importante. Oh, je vous l'avoue, jusqu'à présent, il n'a jamais été question entre nous de ce mariage. J'ai pas été, comme vous le dites, mise au courant des projets de ces jeunes gens. Une seule fois, Hélène, que j'avais interrogée après une soirée chez M. Pérol, où monsieur votre fils s'était particulièrement occupé d'elle, se troubla et me laissa entrevoir un semblant d'intrigue, mais rien de sérieux, puisque depuis qu'elle ne m'en a plus reparlé. Ainsi, vous me voyez réellement surprise du langage que vous venez de me tenir. Et je suis encore plus surprise que vous, madame, reprit madame Talleyrac. D'après ce que m'avait dit mon fils, je me croyais venir accomplir qu'une simple formalité. Oh, madame, mes dispositions à l'égard de monsieur François sont toujours les meilleures. Cependant, avant de lui donner la main de ma fille, j'ai besoin de réfléchir. Alors la réflexion seule vous manque pour me répondre aujourd'hui, interrompit la mère Talleyrac avec une certaine raideur. Claire se mordit les lèvres. Oui, je vous le répète, je suis prise au dépourvu. Mais je voudrais aucunement décourager monsieur votre fils, au contraire, car je serais enchanté de l'avoir pour gendre. Pourtant, on ne peut pas toujours parler sentiments. Faut bien aussi parler raison. Et la raison, il me semble, indique formellement qu'il est au moins nécessaire d'attendre avant de songer à cette union. Monsieur François vit uniquement d'un traitement qui peut lui manquer d'un jour à l'autre, et ma fille, de son côté, possède fort peu de choses. Ne serait-ce pas condamner ces deux enfants à la misère que de les unir? Oh, cela suffit, madame, interrompit madame Talleyrac sèchement. Je vois parfaitement qu'en voyant votre décision à une époque indéterminée, c'est une fin de non-recevoir que vous me signifiez. Oh non, non, je serais désolé, madame, de vous laisser emporter cette impression. Oh d'ailleurs, je déplore à demi votre refus. Sans doute mon fils en souffrira beaucoup, lui, mais un jour ou l'autre, il oubliera et trouvera sans peine un meilleur parti. Quant à moi, qui n'avais fait cette démarche que pour lui être agréable, vous le savez, n'est-ce pas? Je me vois sans aucun regret, privé de l'honneur de votre alliance. Adieu, madame. Et tout cela avait été dit avec une telle fierté, une telle énergie, que madame Morange ne trouva rien pour se défendre. Elle resta debout au milieu du salon, frappée de stupeur, et lorsqu'elle songea à reconduire madame Talleyrac, celle-ci était déjà dans l'escalier. Alors la présence d'esprit lui revint. Elle poussa un soupir de soulagement et se dirigea vers sa chambre. Mon Dieu, Hélène, tu étais là? S'écria-t-elle en surprenant sa fille derrière la porte. Comment se fait-il? Le grand-père avait une visite à faire seul, dit la jeune fille en détournant la tête. Il m'a reconduite jusqu'ici. Et comme en rentrant, j'avais entendu du bruit dans le salon, j'ai fait le tour par ta chambre. Et tu sais qui j'ai reçu? Tu as compris? À peu près, murmura Hélène. Ce fut tout. La jeune fille s'éloigna, ayant hâte de se cacher pour pleurer à son aise. Et Claire, toute souriante, sans souci de la lâcheté qu'elle venait de commettre, mit son chapeau pour sortir.